appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Près de 200 députés pétitionnaires exigent le réaménagement du gouvernement Sam Maloukonde avant son investiture au Parlement pour non-respect de la représentativité nationale et de l'équilibre géopolitique. Ces élus nationaux ont déposé leur mémo auprès du président de l'Assemblée nationale adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, quelle est, selon vous, l'opportunité de cette démarche et quelle peut être son issue? Faut-il prendre en compte toutes les revendications après la publication du gouvernement Sama? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net et aussi nous rejoindre au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Bob Milandou et Jocelyne Mukendi concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung. Angie, excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Monsieur le député Gumafuta Kabongo, élu de Tshikapa, vous êtes avec nous. Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ce studio.
C'est moi qui vous remercie, monsieur J.
Alors, d'entrée de jeu, vous êtes révolutionnaire ou pétitionnaire?
Oh, ni l'un ni l'autre. Je suis juste un Congolais, un élu, un représentant d'une portion de la population, mais avec un mandat national, qui, à un moment donné, a pris conscience qu'il fallait libérer le pays. Il fallait libérer le jeu démocratique pour permettre au chef de l'État, qui avait proposé en son temps un programme à la nation, programme majoritairement accepté, de exécuter ce programme-là. Et en son temps, l'acte matériel était de signer la pétition contre le bureau Mabunda pour permettre à qui est une requalification de la majorité, et ainsi donc donner au chef de l'État la possibilité de mener à bon port son programme et son action.
Alors, après la publication du gouvernement Sama, on enregistre quelques frustrations dans les camps de certains pétitionnaires dont vous faites partie, vous l'avez dit, et qui étaient au front pour les départs du bureau Mabunda. Alors, comment réagissez-vous face à cette attitude?
Il faut dire que d'abord, le député est un homme, est un humain, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir des sentiments. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit frustration, oui, légitime soit-elle, mais à un moment donné, il faut se faire face à la réalité. Il faut se dire que la crise est telle que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de diviser le pays. On ne peut pas se permettre une crise qui serait issue de la non-investiture du gouvernement, moins encore de la dissolution du Parlement. Il est question de revoir encore en face les difficultés, la misère dans laquelle vit notre population et se dire il n'y a que le gouvernement qui puisse répondre à cela. Il faut absolument investir ce gouvernement pour que le programme du chef de l'État, le programme de l'Union sacrée se mette en mouvement.
Alors, qu'exigez-vous au chef de l'État dans les mémos, lui, transmis par les bureaux de l'Assemblée nationale?
Il faut d'abord dire que les députés que nous sommes, hein, les collègues qui avaient rédigé ce mémo, parce qu'il y a eu une réunion à laquelle je n'ai pas pris part, moi j'ai assisté à la lecture en privé de ce mémo-là. C'était à la suite d'une plénière, quelques élus sont restés et j'ai suivi ce mémo. Il faut d'abord noter quand même que les députés ont un sens du respect de l'institution président de la République. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une institution forte appelée président de la République. L'action des députés ne doit pas avoir comme toile de fond la déstabilisation. Le président produit des actes qui, au fait, doivent avoir leur valeur, leur crédibilité et leur caractère aussi sacré, je dirais. Donc, les élus qui ont rédigé ce mémo ont clairement dit que la primeur était réservée au chef de l'État. Mais concrètement, il est question de faire part au chef de l'État d'une observation. En tant que chef de l'État, en tant qu'institution présidente de la République, il est également aussi le patron de l'Union sacrée. Quoi de plus normal que dans une démocratie que les élus lui fassent part d'une observation qui pourrait lui permettre de considérer ces aspects des choses-là. C'est dans ce sens-là, mais la primaire lui a été réservée et je pense que c'est un père de famille qui a déjà pris connaissance de ça et il sera réservé des réponses idoines à cela.
Alors, votre demande est-elle légale? Aujourd'hui, la démarche-là, elle est-elle légale?
Dire au chef de l'État ce que l'on pense n'a jamais été illégal. Ce qui serait condamnable, c'est être hypocrite. Et là, je soutiens encore une fois que les élus qui ont à un moment donné estimé qu'il fallait faire part au chef de l'État de ce qu'ils ont constaté n'ont pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort. Donc là, au fait, le politique cherche toujours un moyen aussi de légaliser ou de faire conformer ses aspirations, ses démarches à la loi. Mais nous sommes dans un terrain purement politique et je crois qu'au fur et à mesure, les collègues qui avaient rédigé cela, qui étaient montés au créneau, comprennent qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous puissions évoluer.
Alors, semble-t-il que ces députés exigent 50 000 $ avec des jeeps avant de faire passer l'investiture de ce nouveau gouvernement.
Là encore, il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés à travers les médias et les réseaux sociaux. Il n'a jamais, d'abord, été question d'exiger des postes. Non. Il n'y a aucun député qui, aujourd'hui, a exigé un portefeuille. Il y a un gouvernement qui est mis en place. Ceux qui y prennent part, ce sont des Congolais comme nous. Il y a aussi des élus comme nous qui ont été à l'avant-plan aussi de la révolution, s'il faut l'appeler ainsi. Mm-hmm. Vous avez un collègue, le VPM Liaou, qui était à l'avant-plan. Vous avez un collègue comme Tony Mwamba qui était aussi à l'avant-plan. Vous avez un collègue comme Adel Kaindo, Moindo Zangi. Ce sont des collègues qui ont combattu. Donc, dans la vie, c'est ça. Vous pouvez être à l'avant-plan à 10, 15, mais on prend 2 ou 3. Donc, il faut pas en faire un problème. Il n'a jamais été question, je le répète encore, d'exiger un poste. Il n'a jamais été question d'exiger 50 000 $, même 1 000 $ pour, n'est-ce pas, investir le gouvernement. Je peux faire marche arrière pour dire, quand nous avions en son temps signé la pétition contre le bureau Mabunda, quand nous avions encore signé la pétition contre le départ du gouvernement Ilunkamba, je peux vous le dire, je peux le dire devant la nation congolaise, les élus que nous sommes n'avions exigé aucun rang.
Il n'y a pas eu d'autre parti?
Non. Nous avions signé, la dernière signature c'était le bureau Ilunkamba. Je me souviens et je peux encore vous le reconfirmer que les élus que nous sommes, nous n'avions exigé aucun rang parce que ce sont des actes que nous avons posés en âme et conscience. Et aujourd'hui, dire de nous que nous exigeons 50 000 $, c'est quand même ridiculiser les députés que nous sommes. Nous sommes quand même des représentants de la population. Et en tant que tel, notre démarche doit être en face de cette population. Aujourd'hui, si vous prenez le micro, vous circulez à Kinshasa. Peut-être que la réaction de nos collègues qui sont montés au créneau à la suite de la publication peut avoir un son de cloche X. Mais quand vous allez à Maïndombe, par exemple, faites passer le micro. Quand vous allez à Mbandaka, province de l'Équateur, faites passer le micro.
Ils n'en ont pas eu.
Vous aurez un son de cloche qui soit différent.
C'est pourquoi vous insistez sur la représentativité.
Vous aurez un son de cloche qui soit différent. Mm-hmm. Quoi de plus normal qu'un collègue élu de Maïndombe, qu'un collègue élu de l'Équateur puisse relayer le son de cloche de sa base électorale. En relayant, on ne veut pas nuire. En relayant, on veut que le chef soit au courant de ce qui se passe. C'est cela.
Donc, on n'exige pas le réaménagement.
Je ne peux pas dire ça. Quand les collègues, par exemple, de Maïndombe disent que chez eux, ils n'ont même pas ministre. Un représentant, c'est tirer l'attention des décideurs.
Est-ce que c'est tirer l'attention des décideurs pour qu'ils réaménagent et qu'ils mettent quelqu'un de Maïndombe?
Qu'ils soient informés. Vous savez, en politique, tout n'est pas perdu. Le fait que l'autorité soit informée d'une action, c'est déjà un gain politique. Mmh. Et même ses collègues, vis-à-vis de leur base politique, quoi de plus normal de conserver la base politique? Je suis élu de Tshikapa. Il se passe quelque chose à Tshikapa, on se plaint. Et moi, élu de Tshikapa, je me tais. Mais que deviendrai-je dans un avenir proche, en 2023? Ils doivent savoir que l'honorable Guy Mafuta, que nous avons délégué là-bas, quand il y a quelque chose à Tshikapa, il perd son sommeil. Mmh. C'est cela, au fait. Il faut comprendre ça comme ça. Mais à cela, aller jusqu'à brûler la maison, non. Les élus qui ont manifesté, qui se sont prononcés, ne sont pas là pour brûler la case. Ils sont conscients qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus dans le pays. Et il n'y a que le gouvernement mis en place.
Rencontre avec le chef de l'État.
Il n'y a pas non plus
d'exigence. Il n'y en a pas eu hier.
Il n'y en a pas. Vous savez, il n'a pas raconté, il ne nous a pas rencontré et ce n'est pas une exigence. Vous savez, le chef, c'est quand même l'autorité suprême du pays. Et devant un chef, on peut pas narguer le chef. On ne peut pas mettre le chef devant un fait accompli. On peut pas lui imposer quoi que ce soit. Le chef, on le respecte, mais on lui dit la vérité. Et là encore, pour me répéter, plus que jamais, nous avons besoin d'un chef de l'État, d'une institution présidente de la République plus forte que jamais pour faire face à la guerre à l'Est, à l'insécurité et faire face au social du Congolais. Un chef fragilisé ne va pas se tenir devant.
Voilà. Merci beaucoup, honorable Guy Mafuta, élu de Tshikapa. Nous sommes avec vous dans ce studio. On va nous consacrer maintenant à ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont souhaité intervenir dans cette émission. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous Guy Mafuta et Ludé Tshikapa. Avec vous, les auditeurs, nous allons maintenant échanger. Bivins, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste Pierre Guimbo. Je suis monsieur Divin Dimon, depuis la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka. Je salue en passant le lit du Tshikapa par monsieur l'honorable Guy Mafuta. Je salue également tous les auditeurs de la radio Okapi. Enfin, je salue avec satisfaction la démarche de nos élus nationaux pour les revendications constitutionnelles. Qui s'est démontré que, contrairement aux avis de nos compatriotes qui pensent que nos élites ne le font que pour leur intérêt égoïste ou pour faire partie du gouvernement, nos élites n'ont fait observer que le prescrit constitutionnel, à l'instar de l'article 90, alinéa 3e de la Constitution qui implique la représentativité nationale pour la formation du gouvernement. Et aussi l'aspect géopolitique pour la formation du gouvernement n'est pas exclu dans ces cas. À mon avis, l'opportunité de cette démarche est d'obtenir une représentativité nationale équilibrée via un...
Oui, mais Bivens, quand vous revenez sur cet article, pensez-vous qu'on peut avoir un gouvernement avec la taille au prorata des tribus que nous avons? Parce que quand vous parlez de représentativité nationale, nous avons combien de tribus et combien d'ethnies?
Oui, en fait, la représentativité que je fais allusion ici, c'est en rapport avec les provinces. Faisons le calcul très simple, c'est que nous avons 26 provinces, et si jamais on faisait le calcul très simple pour la sortie de ce gouvernement, ça nous donne 1,89%. Donc, par province, pour permettre cet équilibre, pour être juste, chaque province devrait avoir ne serait-ce que 2 ministres, à mon avis.
Chaque province pouvait avoir 2 ministres ou vice-ministres au sein de ce gouvernement.
Oui, et voilà.
Donc vous trouvez que c'est quand même opportun cette démarche menée par ces révolutionnaires et que leurs revendications sont légales?
Oui, c'est opportun à mon avis. J'ai fait allusion à l'article 90 de la Constitution.
Merci beaucoup.
À son alinéa 3e. Donc cette démarche est légale et c'est opportun que le chef de l'État puisse tenir compte, n'est-ce pas, de cette revendication pour... permettre l'équilibre de la géopolitique et être
voilà. Juste en merci, tout merci, monde. Merci beaucoup, Bivens.
Alors, pour laquelle...
Oui, Bivens, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Alors, Paulin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Paulin, vous êtes avec nous? Allô? Alors, on prend Franck de Vienne. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour, Franck.
Bonjour notre ami Ger, bonjour à l'honorable Guy Mafouta qui est avec vos studios, bonjour aux amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors, vous avez la parole, Franck. Quelle est votre réaction après avoir écouté notre invité et ainsi que le premier auditeur?
Oui, merci beaucoup. Je trouve que mes responsabilités par rapport à cette situation sont partagées. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous les exposer brièvement en trois volets. Au premier volet, nous devons dire que nous sommes soumis de respect fidèle aux prescrits constitutionnels, mais sans en faire trop d'amalgame. Nous devons commencer par prendre acte des frustrations et craintes de nos compatriotes qui se sentent oubliés. Mais il y a aussi lieu de dire que nous, Congolais, nous faisons une très mauvaise lecture de nos attitudes communautaristes et régionalistes. Si nous devons voir seulement les CV et les profils de ces ministres qui venaient d'être nommés, il y a lieu de nous poser autant de questions, mais pas de douaner les uns et les autres. Parce que la RDC comme pays a plus de 80 millions d'habitants et plus de 400 millions d'ethnies et de tribus. Et si nous devons seulement rester esclaves de cette représentativité aveugle, il faudrait avoir au sein de ce gouvernement un ministre qui doit représenter chaque tribu ou chaque ethnie. Alors, ça serait peut-être mieux de manière ironique, au lieu de parler des ministères, qu'on parle directement des ministres de telle tribu ou de telle ethnie, parce que on ne pourrait jamais mettre tout le monde d'accord. Et personnellement, je trouve que le débat ne devait pas seulement être axé autour des paramètres extérieurs qui ne tiendraient pas jusqu'au bout, mais c'est peut-être d'abord qu'il faut voir la méritocratie. Mais je ne dis pas que ceux qui n'ont pas été retenus, ils ne sont pas, ils ne méritent pas. Mais si le gouvernement doit avoir 60 personnes ou 55, avec 80 millions d'habitants, avec 400 ethnies, avec tout ça, mon ami Ger, c'est un peu difficile. Au deuxième volet, nous devons le rappeler, mon ami Ger, on intervient sur vos zones, que ce qui se passe maintenant avec nos députés, cette attitude, on l'avait déjà prédit. Et je me souviens que c'est les profs qui Bangoti était l'invité.
De parole aux auditeurs, oui, à son temps.
Oui,
c'est lui qui a sorti le terme et révolution.
En intervenant aujourd'hui, je garde encore en mémoire les interventions de mon vieux Félicien Dindoula, qui cessait de nous le dire ici que le mille problèmes que nous avons au Congo,
c'est le problème d'homme.
Nous avons un problème d'homme, notre conception politique, nos convictions citoyennes sont
malades. Oui, mais Franck, quand vous parlez des problèmes d'homme, est-ce que vous responsabilisez ces révolutionnaires? Ou, en d'autres termes, vous visez également le chef de l'État, qui devait jouer le rôle de garant de la nation et concilier, disons, prendre en compte les revendications, les frustrations des uns et des autres.
Mais je viens dire au départ, en entrant, j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Alors, si je peux aller jusqu'à la fin, vous allez trancher. Disons que personnellement, j'ai dit je comprends les attitudes de nos compatriotes députés qui se sentent oubliés s'ils parlent au nom de leur province. Mais au deuxième volet, moi je voulais d'abord dénoncer ces problèmes dont nous avons, puis arriver par nous poser des questions de fond. Comme l'honorable est au studio, il pourra peut-être nous aider. Quelles sont ces promesses qui leur étaient faites lors de ces négociations? On avait
lors des consultations
quoi à nos honorables députés? Ils devaient recevoir quoi? Et comment devait être la répartition des portefeuilles? Ça, c'est une des questions à laquelle les citoyens aimeraient aussi avoir des réponses. Mais si jamais les honorables députés nous disent qu'on avait fait des promesses qui n'ont pas été réalisées, nous devons aussi maintenant nous retourner vers l'autre cas pour nous poser des questions. Mais qui a fait ces promesses aux députés? C'était le chef lui-même ou c'était des promesses faites par personne interposée? Parce que, mon ami, la politique, la réelle politique, ça se schématise sur base d'intérêt. Donc, quand quelqu'un ne se retrouve pas, ce n'est pas pour encourager l'attitude de nos honorables députés, mais la réelle politique, ça se schématise sur base d'intérêt.
Tout à fait.
Même ceux qui allaient faire la pêche de ces députés pour venir vers l'Union sacrée avaient déjà des calculs en tête. Et ceux qui acceptaient de laisser leurs anciens regroupements pour venir adhérer, malgré la chanson qu'on disait là, c'est pour le bien du peuple, mais derrière la tête, chacun venait avec des attentes. Mais maintenant, il fallait que les uns et les autres jouent aussi à la franchise. Mais si ça commence maintenant, vous dites quelque chose la journée, la nuit vous changez, vous faites des promesses qu'on ne tient pas, qu'on ne réalise pas. Là, nous tombons tous. Il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de loyauté, il y a un problème de sincérité. Et je crois que nous devons aussi le dire, on doit éviter de faire croire à l'opinion que la politique, c'est seulement les mensonges. La politique, je crois, dans sa conception, reste l'organisation de la cité. Donc la politique a affaire avec l'organisation, et qui organise doit avoir aussi des vertus, des valeurs et des mérites.
Merci beaucoup,
donc,
Franck.
On ne peut pas s'engager à organiser
merci beaucoup, Franck. Je retiens juste une phrase que vous avez lâchée. La réelle politique se schématise sur base d'intérêts. Alors, quelles ont été les promesses qui ont été faites pour donner la majorité au chef de l'État? Merci beaucoup. Alors, Christian, vous nous avez également rejoint. Vous, vous êtes à Kinshasa. Christian,
bonjour. S'il vous plaît.
Rapidement, Franck.
Je voulais seulement citer au troisième volet, ce sont des conséquences.
Oui.
Telles que nous sommes en train d'évoluer, nous risquons d'arriver à un blocage. Mmh. Parce que l'unique élément, l'unique approche qui reste de la part du chef de l'État, c'est dissoudre le Parlement. Mais s'il s'en servait, est-ce que la République a de l'argent pour organiser les élections?
Voilà.
Avec quel CENI? Et tout ça, c'est le peuple congolais qui est le dindon de cette
phase politique. Merci beaucoup, Franck. L'État nous fait défaut. On va prendre Christian. Christian, vous êtes avec nous?
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Pensez-vous qu'il y aurait des conséquences très 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 néfastes lorsque, si jamais, les révolutionnaires maintenaient encore la pression ou encore gardaient leur position de ne faire pas passer l'investiture?
À chaque fois que l'intérêt général est mis en cause à cause des intérêts privés égoïstes, il y a toujours des conséquences néfastes. JR, vous savez que après la prise des pouvoirs par les dictateurs, il y a eu cette chanson sur le multipartisme qui résonnait sur l'ensemble du continent. Il faut que nous quittions du monopartisme pour aller au multipartisme, parce que si l'Afrique ne se décolle pas, les Congos également, parce que c'est la dictature et qu'on sort. Nous sommes allés au multipartisme. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des partis politiques mosaïques, des partis mallettes, et en réalité, rien n'y change. Nous sommes quittés là-bas et c'est finalement cette situation gouvernement, comment, des livres d'or. Il faut les livres d'or, voilà, celui qui détient les livres d'or n'a jamais géré, il faut qu'il gère. On lui a donné la parcelle des responsabilités, rien n'a changé. Nous sommes quittés là-bas, nous avions embrassé cette situation des technocrates. Il faut un gouvernement des technocrates. Tout le monde, les acteurs politiques, ont repris les chemins des universités, qui est devenu docteur honoris causa, qui est docteur en tel domaine, qui est professeur extraordinaire, ultraordinaire, hyperordinaire. Finalement, en réalité, dans la pratique, rien n'a changé. Nous sommes quittés là-bas, il y a encore ce phénomène du poids politique. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, les poids politiques, ils ont été à la manette, rien n'a changé. Il y a encore ce phénomène du John Derquier. Voilà, écoutez, la parité, écoutez, on a mis des femmes, rien n'a changé. Et aujourd'hui, J.R. Lungembo, la même situation, ou encore le même réalité, se répète inlassablement. Ce qui est vrai, la démarche est, je dirais, loyale. Dans la démocratie, tout le monde peut réclamer quelque chose. Mmh. Si, du temps des Kabila, d'aucun, plusieurs ne parlaient pas, ils applaudissaient, ben parce qu'il y avait une certaine dictature qui s'imposait. Aujourd'hui, tout le monde parle, c'est une bonne chose. Mais c'est quelle est la finalité? Mmh. En réalité, tous ces gens-là qui parlent, ce n'est pas par rapport à la représentativité ou encore par rapport à la géopolitique. Non. En réalité, les uns et les autres cherchent qu'ils entrent également au mangeoir ou encore au pouvoir, J.R. Lungembo. Et c'est ça l'aîné du problème. Mmh. Tout ce que nous allons demander aux uns et aux autres, tout simplement, d'éviter ce genre de choses. Parce que hier, quand certains étaient encore dans l'opposition, ils étaient des donneurs de leçons, ils étaient ceux qui critiquaient un gouvernement éléphantesque. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée ou encore dans la classe gouvernante, ben écoutez, tout le monde doit devenir ministre, même s'il faut avoir un gouvernement de 500 ou 80 millions de ministres, il faut qu'on arrive à cela, pourvu que chacun se retrouve. Non, il faut changer le paradigme, et je crois que le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'homme politique congolais. Il faudrait vraiment changer sa mentalité, la démarche est salitaire, peut-être pour les uns, mais moi je crois que l'intérêt général doit primer, afin que la population voilà. serait tout. Parce que demain, nous allons juger tous ces comportements, seront en fait un élément pour nous, sur base desquels nous allons réfléchir. Nous allons tabler les décisions devant, dans les urnes, sur base de toutes
ces
attitudes.
Merci beaucoup, Christian Politassi, d'avoir appelé de Kinshasa. On va retrouver d'autres auditeurs tout à l'heure, donc la deuxième série, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081-890-4969 ou au 081-890-6330. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Merci encore de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats soumis, en tout cas sur les ondes des Radio Okapi. Parole aux auditeurs vous accueille avec joie et nous avons dans ces studios Guy Mafuta, élu d'Etchikapa. Monsieur le député, vous venez de suivre cette série des auditeurs, mais je retiens la dernière phrase de Franck. Dans la réelle politique, la réelle politique se schématise sur base d'intérêts. Quelles sont les promesses qui vous ont été faites, vous, et qui n'ont pas été réalisées pour autant créer des frustrations?
Merci beaucoup, merci à tous les compatriotes qui sont intervenus. Je note qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à ce débat ici. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser quelque chose. Ici, vous parlez des pétitionnaires. Il faut distinguer ceux qui, en son temps, avaient occasionné la chute du bureau Mabunda, les pétitionnaires. Ce n'est pas la même liste qui, aujourd'hui, revendique quelque chose que ce soit. C'est des députés, des élus. Mmh. Il y en a qui, en son temps, avaient signé la pétition, qui sont parmi ce groupe ici. Il y en a qui n'avaient pas signé, qui y sont. Donc, ce n'est pas, il faut pas faire du vice-versa. Ce n'est pas la même liste.
Mais au moins, il y a 200 révolutionnaires.
Au moins, il y a beaucoup d'élus qui sont dans cette logique-là. J'aimerais aussi, rencontrer un peu les préoccupations des amis. Il y a Bivin Sambandaka qui parle de l'article 90 de la Constitution. Il n'a pas tort, effectivement, la Constitution le souligne ainsi. Donc, il faut une représentativité nationale. Donc, ce n'est pas un débat anticonstitutionnel. Et aussi, Franck Avienne, qui dit que c'est un problème d'homme, tout ça. Là où il a raison, c'est que le débat ne doit pas seulement se limiter aux provinces. Il faut aussi aller au profil de ceux qui sont là. Mais avoir déjà le chef de l'État n'a pas, ou le premier ministre n'a pas choisi des gens qui n'ont pas de profil. Je crois qu'ils ont quand même des CV qui...
Ils sont pas sortis de la racaille.
Ils sont pas sortis de la racaille. Ils ont quand même des CV, des parcours.
Des backgrounds.
Qui peuvent nous donner la présomption de certaines compétences à même de transformer d'autres pays. Et aussi quand il dit, Franck Avienne, frustration, prendre acte, profil, CV, tout ça. Quelles promesses nous ont été faites? Ah, je sais pas, c'est une grosse question. Mais moi, je sais que...
50 000
dollars? Non, pas du tout. Le chef de l'État n'a jamais promis 50 000 dollars, qui que ce soit. Moi, je sais que quand nous avons répondu à son appel de l'Union Sacrée, c'était pour donner une chance au Congo. Donner une chance au Congo, c'est avoir une gestion différente, une gouvernante beaucoup plus différente que de celle d'antan, quoi. Donc, c'est ça. Et pour vivre ça, nous devons donner la chance à ce gouvernement d'exécuter cette nouvelle vision, la vision de l'Union Sacrée. Il n'y a pas une promesse précise à qui que ce soit, ou de nature financière, ou de nature de poste. Moi, je n'ai jamais reçu une promesse précise. Ils nous disent d'un blocage, dissolution. Je l'ai dit en amont. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se payer ce luxe-là aujourd'hui, d'imaginer la dissolution. Moins encore, le refus d'investir le gouvernement. Nous n'en avons pas le droit. Le pays souffre. La souffrance est telle que aujourd'hui, il faut donner la chance à cette équipe d'entrer en fonction. Il faut concilier les vues. Une revendication, quand elle n'est pas rencontrée, cela ne veut pas dire qu'on a perdu. L'idée est passée et le chef sait ce qu'il a entendu. Et je pense que ça peut toujours aider. Ce qui est intéressant, c'est plus avec Christian, hein, c'est un peu de l'histoire et un peu de la science aussi. Quand il dit les périodes changent, livre d'or, technocratie, poids politique. Effectivement, les choses changent. Moi, je me dis que au finish, chaque pays doit avoir une conception précise de sa gestion politique et même de sa gestion en termes de gouvernance. Et là, quand vous lisez, les analystes pourront corroborer à ce que je dis, notre pays apparemment se recherche encore. Si hier il y avait ce qu'il appelle la technocratie, il y a eu un temps le poids politique, mais aujourd'hui on assiste à quoi ? On parle de la province, on parle de la
représentativité féminine.
Mais à côté, il y a une notion qu'on ne fait pas, quand je suis les intervenants, ils n'ont pas fait allusion à ça. Mm-hmm. Les composantes politiques. Mm-hmm. Parce que dans la formation du gouvernement, il n'y a pas que la représentativité en termes des aires géographiques qui interviennent. Il y a aussi les composantes politiques. Vous en avez qui ont un poids réel. Mais quelle est leur part ? Quelle est leur situation dans tout ça ? On peut dire oui, 26 provinces, 26 ministres. Même dans ce qu'il y a comme revendication, il y en a qui estiment que dans telle province, tous sont de tels territoires. Mm-hmm. Faut-il aller dans ce sens-là ? Moi, je dis non. Si aujourd'hui le ministre, le VPM, Guissaro, infrastructure, fait le pont à Tchikapa, moi, je suis content. Et même les habitants de Tchikapa seront très contents. Il n'a pas besoin d'être un élu de Tchikapa, il n'a pas besoin d'être un Kassaïen pour me faire le pont. C'est le sens
mais
de l'État.
Mais quand on regarde la composition de ces gouvernements, il y a lieu quand même de donner raison à certains révolutionnaires lorsque ils estiment, vous avez parlé de la composante parti politique, mais il y a certaines personnalités qui se retrouvent dans ces gouvernements sans pour autant être issus de composantes politiques. Donc ils sortent de nulle part.
Vous savez, le chef de l'État a une mission à accomplir et le chef de l'État
pouvoir
a plus du... Il a le pouvoir discrétionnaire, effectivement. Il a une mission accomplie. Il a plus d'une information. C'est à lui de pêcher les oiseaux rares, les personnes qu'il connaît, dont la compétence n'est pas à remettre en cause. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des héros non connus. Mm-hmm. Cette femme qui est, je ne sais moi, dans tel village, elle peut être une héroïne. Mais puisqu'elle n'est pas connue de Top Congo, ou
par exemple,
de Radio Okapi,
elle
demeure comme ça. Mm-hmm. Donc le chef puise dans son environnement, puise dans ce que lui connaît.
Dans son milieu naturel.
Dans son milieu naturel, voilà. C'est là où il puise. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que tu es d'un milieu qu'on t'a pas remarqué, il faut brûler la case. Non, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre aux vrais besoins de la population. Et je l'ai dit, je le redirai encore, c'est la sécurité et c'est le social. Donc pour revenir à ce que je disais, les choses évoluent. Et je vous assure, JR, lors des de la législature prochaine 2023, vous aurez affaire à d'autres considérations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne fait pas attention à ça, l'arrêt de la Cour suprême, qui au fait précise un peu les libertés, hein, les limites des libertés du député. Aujourd'hui, ça a servi à quelque chose.
Le caractère impératif,
mais attention, on aura affaire à un autre député, à une nouvelle Assemblée nationale qui va naître. Aujourd'hui, je crois que demain déjà, nous examinons la loi sur la CNI. Je vous assure, la qualité des débats, au regard de tout ce qu'on a remarqué, au regard de tout ce qui a été enregistré comme faiblesse lors du dernier scrutin, vous aurez une CNI qui sera améliorée. Je dis toujours à mes collègues, on aura fait un pas vers la transparence, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est une évolution qu'il faut considérer comme telle. Le pays évolue. La question aussi de l'État évolue, l'approche aussi, le pôle politique aussi doit être appelé à évoluer.
Merci beaucoup. Alors on va retourner de l'autre côté de la baie vitrée pour accueillir à nouveau d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, une fois encore, merci. Gracia, vous êtes à Kisangani. Bonjour Gracia. Gracia, vous êtes avec nous ? Allô, Gracia ? Alors, on parle plutôt Kalo Kaloji, vous êtes en Mbujimayi ?
Oui, Radio Gabi, je suis en Mbujimayi, c'est Kalo Kaloji, effectivement.
Oui, vous avez la parole.
En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir à ce débat citoyen. Mais je commence par vous dire que ces genres de revendications ont été, existaient toujours dans notre pays. Mais le grand problème, c'est que ces gens qui revendiquaient étaient tellement étouffés. Et j'ai dit merci d'abord à ces régions, parce qu'aujourd'hui, chaque personne peut sortir, il peut parler, mais revendiquer ce qu'il veut. Et je suis contre ceux qui diabolisent ces élus. Il ne faut pas confondre des choses. En politique, il n'y a pas de tabou. C'est un jeu d'intérêt. Qui connaît si la rencontre des nuits? Parce que ce que les politiciens nous parlent pendant le sommet, ce n'est pas ce qu'ils ont tiré comme conclusion la nuit. Ils se sont donnés des promesses, des accords, et quand les accords ne sont pas respectés, ils doivent quand même revendiquer. Mais je suis contre ces élus à ces deux points. Quand il parle, par exemple, de bloquer l'investisseur du gouvernement, et quand il parle, quand il peut aussi qu'il y ait un réajustement du gouvernement. Moi, je me pose la question. Ces mêmes élus sont élus appelés députés. S'ils cherchent aujourd'hui à devenir, par exemple, mandataire public, cherchent à devenir ministre. Mais quand nous, citoyens, quand nous les regardons dans l'hémicycle, en termes de pourcentage sur 500 députés, je peux citer, moi, 30 personnes qui font quand même des projets de loi. Vous sentez réellement que celui-ci mérite cette personne. Quand ils seront ministres, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, soyons sérieux dans notre pays. Vraiment, ce pays n'est pas là seulement pour un groupe d'individus qui doivent gérer tout. C'est-à-dire, vous-même là, vous êtes mandataire public, vous êtes député, vous êtes ministre, vos enfants, tout ça, laissons ça vraiment. Nous sommes vraiment un pays qu'on doit quand même respecter. Mais j'ai quelques questions, des questions à poser à votre invité. Est-ce que votre invité, la députée telle qu'il est là, est-ce qu'il peut me rassurer qu'il est d'accord avec moi si aujourd'hui on prend une proposition de loi interdisant par exemple à un député d'accéder à une autre fonction, par exemple, être ministre, être par exemple mandataire public, est-ce qu'il peut accepter ça? C'est ça ma question. Deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce que lui, la députée qui est là, quelle est leur contribution? Parce que c'est leurs collègues qui sont en train de revendiquer. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent de ces gens-là, réellement? Quelle est la cause? Est-ce qu'il y a eu une promesse? Oui ou non? S'il y avait une promesse, en tout cas, soyons sérieux de respecter nos accords et nos promesses. Je vous remercie.
Voilà. Merci beaucoup, Garcia, pardon, Kaloji, parce que c'est une préoccupation directe. Maître Guy Mafuta, finalement, c'est pratiquement la même préoccupation qu'avait Franck, qui est intervenu avant. Est-ce qu'il y a eu des promesses? Quand vous êtes allé aux consultations, vous y êtes allé de bonne foi?
En fait, il faut dire que il y a pas eu un go donné pour que les députés se versent à l'Union sacrée. Et je crois que chacun de nous a de manière individuelle, bon, s'il y en a qui l'ont fait par rapport à leur composante politique, moi personnellement, c'est en âme et conscience que je me suis décidé à répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Et pourquoi j'y ai répondu? Parce que le pays en avait besoin. Il fallait à un moment donné que les tractations, les conflits, les blocages au niveau de Kinshasa ici cèdent la place à la gestion, au travail. C'est pourquoi j'avais répondu. Mais s'il faut parler de promesses concrètes comme telles, non. La seule promesse, c'est de voir le pays être gouverné autrement pour le bonheur de tous les Congolais. Et l'ami, M. Kalo Ambujima, je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas diaboliser l'action de nos collègues qui ont réagi par rapport à cette composition. Il ne faut pas le diaboliser. Il faut passer la bonne information. Il n'y a jamais eu promesse en termes ou conditions en termes d'argent tel que je le lis. Mmh. Il n'y a jamais eu revendication en termes de 500 ministères tel que je le lis. Donc c'est une revendication qui aussi tire certains fondements dans les textes. Mais comme je l'avais dit aussi, à un moment donné, il faut voir en face la réalité. Il faut aller de l'avant et passer à
la réalité du gouvernement. C'est le blocage qui va s'y venir.
Non, je suis, et beaucoup pensent comme moi. C'est vrai, il y a des collègues qui ont parlé, mais à un moment donné, on va passer à l'investiture du gouvernement. Ça, il n'y a rien à faire parce que effectivement, le pays doit bouger, le pays doit avancer.
Voilà, on va, Amos qui nous a rejoint. Amos, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Gilles.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, Gilles, pour la parole donnée. Au fait, je pense que ce que nous venons de connaître aujourd'hui, avec la réclamation ou la revendication de ces plus de 200 députés, vient de me donner raison. J'ai des analyses à faire quant à ça. La première, c'est que vous vous souviendrez hier que j'avais à dire encore sur votre micro, que ceux qui sont allés à l'Union sacrée, à la fameuse Union sacrée, ne sont pas allés au nom du patriotisme. Ne sont pas allés parce qu'ils ont constaté la misère du peuple congolais. Mais ils seraient partis, soit un, pour aller sauvegarder ou protéger ce qu'ils avaient déjà pillé au niveau du pays avec la Kabylie. Deux, ils sont partis pour aller piéger de nouveaux postes. Trois, il y a ceux qui sont partis au nom de la géopolitique. Et voilà, aujourd'hui, le temps vient de me donner raison. Deuxième analyse. Moi, je pense que les revendications de ces 200 députés ou plus, peut-être ils veulent mettre une pression pour qu'ils soient nommés dans des entreprises publiques de l'État. Ils ont compris qu'ils n'ont pas été ministres et ils se disent finalement pourquoi nous sommes allés à la Union sacrée. Et c'est ainsi qu'ils veulent mettre une pression pour que le chef de l'État, Félix Antoine, comprenne que non, ils existent et que les noms les met dans des entreprises. Et avec cette manière de faire, la RDC ne décollera jamais. Parce que nous avons toujours connu des acteurs politiques qui agissent selon leurs intérêts égoïstes et qui changent les comportements, qui changent le langage selon l'odeur du pouvoir. Et avec une telle mentalité, je pense qu'on aura toujours des riches et des très pauvres en RDC. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je me suis dit, avec l'Union sacrée, et ce que nous venons de vivre avec ces 200 députés, moi je commence déjà à mettre des doutes avec l'évolution de la famille sacrée. Nous risquons de vivre le pire par rapport à ce qu'on a vécu avec la Kabylie. Et c'est pourquoi je continue à appeler le peuple congolais à continuer à militer pour qu'en 2023 nous ayons des élections.
Oui, mais Amos,
réellement
Amos,
les dirigeants responsables,
oui,
Amos, et nos aventuriers.
Mais il y a quand même une question qui se dégage. Est-ce que la démarche de ces 200 députés, près de 200 députés, cette démarche n'est-elle pas légale? Parce que quand on revendique par exemple la représentativité nationale, ça tient la route quand même.
Ça dépend des promesses qu'on leur avait faites. Il reste à savoir si du moins...
Mais parce que notre invité a insisté, il l'a répété et l'a souligné, il n'y a jamais eu de promesses. Selon lui...
Si du moins, on leur avait donné des promesses et que le chef de l'État n'a pas pu les promesses qu'il leur avait faites, c'est déjà un problème. Et là où 200 députés revendiquent, c'est déjà un problème sérieux. Parce qu'on ne sait pas si du moins, il y a encore plus de 51 députés qui peuvent les rejoindre demain et la situation va bâcler. Et la fameuse Union sacrée va encore tomber avec le gouvernement qu'on venait de nommer. Moi, je pense que ce qui devait donner, ce qui devait pousser le président de la République à réfléchir des fois et comprendre que, apparemment, on lui a vendu du vent. On lui a vendu du vent en lui disant non, on vient de chasser la Kabylie, Kabange avec ses gens, le FCC. Mais, si dis-moi si tel serait le cas, pourquoi encore de telles revendications au lieu de dire, il y a carnage à Beni, il n'y a pas de route, l'éducation de nos enfants dans la rue, rien ne va, laissons ceux qui ont été nommés se mettre au travail et les évaluer aux résultats. Mais comme tous ne travaillent pas pour le peuple congolais, voilà ce que nous sommes en train de vivre et je continue à regretter et je pense que nous avons quitté la médiocrité pour la nullité.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Amos d'avoir appelé. Alors on va prendre Bonny. Bonny, vous êtes avec nous?
Oui, c'est Bonny. Je voudrais dire que ce que les députés font, ce que les 200 députés ont fait, il y a lieu de ne pas leur jeter des pierres en fait. Parce que c'est ce que les ministres ont planté dans les têtes des Congolais. Chaque ministre pense qu'il est ministre de sa contrée en fait, de son territoire. Et il veut exactement servir là où il a été voté. Alors, on commence à penser qu'il faut être ministre, effectivement, pour servir son peuple et pour avoir la chance de gagner les futures élections. Donc,
Mais c'est Bonny. Pensez-vous que c'est légal de cette démarche? Donc, si je comprends bien, il ne faut pas leur jeter le pierre.
Ça vient, effectivement, ça vient soutenir la façon avec laquelle les anciens ministres ont dirigé le pays.
Donc, c'est une mentalité qui est déjà ancrée dans le chef des Congolais.
Effectivement. Ça c'est le travail que tout le monde...
Mais alors, on redoute des conséquences prochaines. On redoute des conséquences prochaines, parce que nous sommes pratiquement à la fin du mois d'avril. S'il y a blocage, ça pourrait aller jusqu'au 15 mai. Alors, quand est-ce que ces nouveaux ministres vont travailler?
Non, effectivement, nous, on s'en fout. On attend seulement leur travail. Hein. Il faut que les Congolais sachent qu'un ministre est le ministre national et non ministre de son territoire. Voilà.
Merci.
Et aussi, il faut que le ministre ne soit pas nécessairement de... qui ne provienne pas de l'Assemblée nationale. Parce que, imaginez-vous, quand on choisit les ministres à partir des députés, et tout ce qu'ils ont à tête, c'est « Ah, comment est-ce que je serai encore élu en 2023 ?» Vous voyez. Et puis les autres ont la peur. Comment est-ce que je serai élu?
Donc c'est la peur du lendemain.
Alors ils disent « Ah, il y a lieu de faire une pression pour que nous soyons aussi des ministres et pour avoir la chance d'être réélu en 2023. »
Merci beaucoup. Alors on va évoluer. Mais il y a quand même des préoccupations directes.
Participez à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous sommes dans ces studios avec Maître Aigu Mafuta Kabongo, élu des Tshikapa, qui est avec nous. Ensemble avec les auditeurs, on est en train de décrypter la question des revendications de près de 200 députés pétitionnaires qui exigent, pas seulement les pétitionnaires, les révolutionnaires comme on les appelle aujourd'hui, exigent le réaménagement du gouvernement Sama Lukonde avant son investiture au Parlement. Alors, Monsieur Aigu Mafuta, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Quel est votre réaction?
D'abord, je note la passion avec laquelle nous intervenons, l'énergie, surtout le compatriote Amos. J'ai senti qu'il était très virulent là. Donc, je comprends que c'est une question très sensible. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui sonde les cœurs et les reins des élus. Quand il dit les élus qui ont adhéré à l'Union Sacrée sont venus pour protéger leurs acquis, chercher de nouveaux postes. Je dis non, là c'est quand même, je crois pas que ça soit le cas. Parce que tous ceux qui étaient à l'avant-plan, la plupart sont des gens qui n'avaient jamais géré avant, qui n'avaient rien à protéger en termes de sécurité et qui n'avaient pas grand-chose à sauvegarder. Moi, je continue à croire que nous, le mot pétitionnaire, révolutionnaire, nous sommes juste des élus, des Congolais qui ont pris conscience d'une chose. Il fallait assurer un soutien au chef de l'État pour qu'il puisse soutenir son action qu'il a promis aux Congolais. Mais aussi, je vais noter une chose, parce que j'ai l'impression que quand un élu a une ambition, ça devient illégal, inconscient. Non, l'ambition n'a jamais été mauvaise. Quand vous allez dans des vieilles démocraties, je vais citer le cas du Canada, généralement tous les ministres sont des élus. Il n'y a pas plus responsable en termes de redevabilité qu'un élu pour gérer. Ça, je le dis, je le sais. Parce que nous, tels que nous sommes là, les coups de fil que nous recevons de nos bases respectives, des Congolais, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, plus responsable, plus redevable qu'un élu, je n'en vois pas. Mais il faut pas non plus exclure nos compatriotes qui ont une expertise, qui ont une personnalité, qui ont un talent précis d'apporter aussi leur pierre dans la gestion. Donc le fait que les élus aient des ambitions, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas illégal, ce n'est pas illégitime, c'est le fait de leur droit. Et aussi, il faut ajouter que de toutes les institutions, c'est l'Assemblée nationale, l'institution la plus sanctionnée par la population. Quand vous voyez, c'est déjà le troisième cycle, le taux des députés qui rentrent au Parlement, c'est à peine 10%. Quand vous prenez un président peut faire trois mandats, pas trois mandats, mais
deux mandats,
10 ans facilement. Mais quel est le taux des élus qui rentrent? Ça, c'est le problème. Donc, la population est plus sévère vis-à-vis de l'élu que plus que n'importe
que
qui.
Que d'autres personnalités politiques.
Voilà. Quoi de plus normal d'avoir des élus qui gèrent? Ça, c'est pas un problème. Donc, le problème, c'est pourquoi on est là. Là, je raisonne directement l'observation de M. Boni.
Question, on l'échappe souvent. Est-ce qu'il y a eu des promesses, Aigu Mafuta? Je crois que vous avez toujours
été sincère. Je crois que c'est la troisième fois.
Vous avez été toujours sincère. Est-ce qu'il y a eu
des promesses? J'ai toujours été objectif.
Parce que là, la réalité, la réelle politique, comme l'a dit, c'est schématisé par des intérêts.
Sincère, formel, comme ça, non. Moi, je n'en connais pas. Toutes ces réunions, je crois que
Kaboundou n'a pas donné 5000.
Je crois que si je dois être fidèle, il n'y a pas eu l'argent dans tout ça. Si je dois être fidèle, le chef de l'État ne nous a reçus qu'une seule fois. C'était à la cité de l'OUA, une seule rencontre à ma connaissance. Et lors de cette rencontre, dont le contenu était même rendu public, il n'y a jamais eu de promesse de quoi que ce soit. Moi, je crois que c'était un appel aux Congolais consciencieux, aux Congolais qui ont la réalité de la souffrance du Congo qui était lancée. Et nous avons répondu cela. Quitte à savoir si chacun de nous, dans l'intérêt général, vous savez, a toujours un intérêt personnel. Si chacun de nous a une ambition personnelle qui n'a pas été rencontrée par une ordonnance, par une décision, ça c'est à lui. Mais une promesse officielle réalisée à l'endroit de tous les députés comme ça, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas s'il y a eu des composantes qui ont eu un deal, comme un auditeur l'a dit ici, mais une promesse officielle faite par le chef ou par monsieur le premier vice-président à l'époque, l'honorable Kabounde, je ne m'en souviens pas.
Mais parce que quand on regarde de la composition de ce gouvernement, on sait tout de suite comprendre qu'effectivement, il y a eu un deal avec certaines personnalités politiques. Quand Katumbi prend par exemple 5 ministères et Bemba en prend 2 et un vice-ministère.
Là, c'est une déduction qu'on peut faire. Mais vous savez, quand on fait des analyses croisées, on peut confirmer ce que vous dites, tout comme aussi infirmer. Mais le plus important, j'ai entendu un auditeur ici, Monsieur Bouni, dire que c'est le fruit de ce que les ministres nous ont toujours balancé dans le figure. Et là, je dis que il n'a pas totalement tort. Il faut effectivement cultiver le sens de l'État. Le sens de l'État, c'est quoi? Je suis de Tshikapa, je suis nommé ministre, je suis ministre de tout le Congo. C'est là où je donne la raison à un collègue dont le nom m'échappe maintenant. Il a dit, c'est vrai, c'est l'Union sacrée qui a la majorité, mais ce n'est pas un gouvernement de l'Union sacrée, c'est un gouvernement républicain. Et là, je pense que le mieux, la personne qui est le plus indiquée à comprendre ça, c'est le chef de l'État, qui donne une formule républicaine.
On va revenir à vous, le temps de nous faire une idée sur la suite. Et la suite à réserver aux revendications et quelles seront les conséquences à venir. Alors, Simon Tsiloulou, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis là, JR. Bonjour à vous, bonjour au voyage Guy Mafuta et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de par le monde. Et nous pensons également par rapport au sujet très important parce qu'il fait l'actualité partout, même dans nos villages, c'est devenu un problème réel. Moi, je pense que à l'allure où va le Congo, les difficultés qu'a le Congo aujourd'hui, la problématique de tirer le Congo du bas où il se trouve pour le hisser vers le haut, je pense que ça appelle à la responsabilité de nous, la population, et c'est à qui nous donnons mandat pour exercer telle fonction ou telle autre. Et je pense, évidemment, que les députés doivent s'inscrire dans cette logique-là. Et je suis sidéré lorsque les députés réclament quelque chose qui n'a rien à voir avec la population. Parce que chercher à saboter ou sinon...
Oui, Simon, quand ils disent qu'ils revendiquent la représentativité nationale et l'équilibre géopolitique, est-ce que ça n'a pas un rapport direct avec la population?
Actuellement, par rapport aux urgences et par rapport à ce que la population attend du gouvernement, ça n'a aucune importance. Normalement, ce que nous avons voté doivent comprendre le vrai problème que nous avons. Tous les gouvernements passés, il y avait toujours des provinces qui étaient marginalisées, mais les gouvernements fonctionnaient. Le Congo central, pour beaucoup de temps et beaucoup de gouvernements passés, était aussi marginalisé, mais on n'en faisait pas une question d'État ou un problème public pour bloquer les gouvernements des marchés. Je crois que les honorables qui s'inscrivent dans cette logique doivent un peu transcender l'en soi, ce qui est à, et pour voir un peu plus loin. Puisque moi j'aime ce genre de débat dans la mesure où ça crée déjà un climat de méfiance entre l'exécutif et le Parlement. Ceci peut provoquer une sorte d'encouragement aux députés de bien faire maintenant le travail, de faire les comptes parlementaires, de suivre les ministres là où ils sont, parce que déjà dès le départ, il y a eu un peu ça. Mais dire que nous voulons la représentativité de tel et tel, depuis longtemps, ce problème existe toujours. Prenez tous les gouvernements, mettez les tableaux de tous les gouvernements passés. Vous verrez que la géopolitique ou la représentativité des provinces crée toujours un problème par degré de gauche à droite. Mais on n'en faisait pas un problème d'État. Mais maintenant, c'est une façon d'exprimer peut-être les frustrations ou ce qu'on a voulu avoir personnellement et puis les mettre au dos d'un grand problème qui pouvait arriver. C'est pourquoi moi j'avais donné conseil au départ. Les députés tels qu'ils sont là, ils viennent vers nous, ils viennent peut-être sous forme d'un contrat. Que votez-moi, je vais voter pour vous des lois, je vais contrôler l'exécutif. Et c'est ce qu'ils viennent dire. Et c'est en base de ça que nous les votons comme députés, parce que nous les trouvons capables d'exercer la mission qu'ils viennent nous donner. Et nous ne votons pas tout le monde. Nous votons ceux-là que nous trouvons capables par rapport au projet qu'ils nous présentent. Mais lorsqu'ils arrivent là et qu'ils détournent l'intention des électeurs, l'Assemblée nationale, pour aller à l'exécutif, ça ce n'était pas un contrat entre nous, le peuple, ils doivent rester là où nous les
là
avons,
où nous avons placés.
Merci beaucoup, merci Simon Tilolo.
Merci beaucoup.
Ils veulent aller ailleurs.
Voilà, ils ne doivent pas chercher à aller ailleurs, ils doivent rester au Parlement. Merci beaucoup. Je crois la loi sur la CENI qui sera d'ailleurs en discussion. Il y a beaucoup de réformes qui sont prévues et surtout sur la loi électorale. Je crois qu'on va arriver à prendre en compte les aspirations des uns et des autres. Alors, on va conclure cette émission avec vous, honorable député. Vous êtes élu des Tchikapa à Gumafuta. Vous êtes parmi les révolutionnaires. Vous étiez parmi les pétitionnaires. Et actuellement, vous partagez, comme vous l'avez dit en début, les revendications, les frustrations des uns et des autres. Mais vous en appelez à mettre un peu l'eau dans leur vin, les uns et les autres, en évoquant bien entendu les réalités. Alors, quelle sera la suite? Si jamais la suite que ces députés attendent ne vient pas, c'est-à-dire que les chefs de l'État ne le reçoivent pas, comment voyez-vous l'avenir?
Moi, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, je vais encore me le répéter, c'est vrai, les collègues qui ont manifesté et qui ont fait des observations au gouvernement n'ont pas totalement tort.
Et ils n'ont pas. Et qui le disent tout haut devant les médias.
Qui le disent tout haut n'ont pas totalement tort. Mais il faut avoir la réalité en face. Nous avons affaire à un pays qui souffre. D'ailleurs, je venais de lire au terme de la malnutrition les rapports des instruments internationaux. C'est du rouge partout. Nous ne savons pas mobiliser les ressources, l'insécurité à l'Est. La réalité, elle est macabre pour le Congo. Allons-nous nous permettre de ne pas investir le gouvernement dans cet environnement? Ce n'est pas indiqué. Nous avons encore une fois, comme je l'ai dit, besoin d'une institution président de la République très forte. Et nous devons soutenir cette initiative, voire à nous aussi députés, d'être beaucoup plus responsables dans le contrôle parlementaire. Aider ce gouvernement à rencontrer les vrais besoins de la population et nous aurons fait œuvre utile.
Gumafuta Kabongo, vous êtes honorable député, élu de Tchikapa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Jocelyne Mukendi et Bob Milandou. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Yabung Anji. A très bientôt pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.